face à Emmanuel Lechypre, c'est Jean-Marc Daniel. Et on a des réponses très hétérogènes à la crise énergétique en Europe. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie. Et maintenant, il y a l'Allemagne qui annonce des mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Là-bas, on a quand même un diesel qui est autour des 2,50 € le litre. Et pourtant, Emmanuel Lechypre, la Commission européenne avait dit de ne pas sortir le carnet de chèques. Nous, on tient en France. On est les bons élèves, ce qui est plutôt assez marrant. Mais combien de temps on peut tenir?
Moi, je ne sais plus quoi vous dire. C'est-à-dire que s'il y en a bien qui font à contre-temps, de façon régulière et continue, c'est quand même les Français. C'est-à-dire qui dépense trop quand ils ne devraient pas dépenser, c'est les Français. Et qui ne dépense pas quand ils devraient dépenser, c'est toujours le gouvernement français. Pourquoi la position, elle est intenable aujourd'hui pour le gouvernement français? C'est d'abord que le premier pari qui était le pari du « quoi qu'il n'en coûte pas »,
oui. Hein,
il faut s'en rappeler, c'est-à-dire en gros, on table sur le fait que cette guerre va être courte, une semaine, deux semaines, on fait le dos rond, on essaie de montrer qu'on s'agite un peu, on va faire les méchants dans les stations-service, on donne l'injonction aux distributeurs de répercuter très vite à baisser les prix, et on se disait ça va passer, etc. Bon, manifestement, ça ne passe pas. Donc ça, c'est un premier pari perdu. Donc le deuxième pari perdu, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas rester le seul pays européen à ne rien faire, même si vos finances publiques sont dégradées. Pourquoi ? Parce que, on l'a déjà dit ici, les dépenses de carburant, encore une fois, ce sont quasiment des dépenses contraintes. C'est un choc violent sur des dépenses que vous ne pouvez pas arbitrer. Vous avez quand même derrière un risque de crise sociale qu'il est plutôt bon d'essayer de ne pas attiser, surtout avant de grandes échéances électorales. Il y a une question, même cette idée de qui est recevable, de dire ah, mais si vous faites une baisse des taxes, ça va profiter à tout le monde, même à ceux qui n'en ont pas besoin. C'est vrai, mais c'est quand même un geste aussi en faveur des territoires, et c'est demander une contribution à ceux qui ont de l'argent. Et puis, il faut tuer dans l'œuf aussi toutes les anticipations d'inflation. Donc, il faut tuer dans l'œuf toutes les répercussions possibles de cette flambée des prix des carburants, parce que les taux d'intérêt, c'est important. Et puis, je rappelle encore une chose, c'est que la meilleure trajectoire, parce que l'argument, c'est aussi de dire, si vous baissez les taxes sur les carburants, vous facilitez pas la transition énergétique. Mais il faut rappeler que la transition énergétique, ça ne marchera que si c'est une autoroute. Hein, pas un chemin de campagne. Donc, il faut, pour aller vers la transition énergétique, une trajectoire visible, solide, robuste, sans à-coup et sans choc. Et donc, ça n'est certainement pas compromettre la transition écologique que de baisser temporairement les taxes sur les carburants.
Avant de donner la parole à Jean-Marc, je voudrais juste redonner ce chiffre qui a été donné par la Commission européenne hier. Après la guerre en Ukraine, on a mis 2,2% du PIB européen dans des aides aux carburants. Ça n'a bénéficié qu'à un quart des ménages fragiles. Donc, dans le genre, on arrose le sable et on permet à Jean-Marc et moi de partir en vacances.
Mais trouvons quand même quelque chose. Trouvons un moyen de cibler.
C'est votre tour, Jean-Marc.
Oui, alors effectivement, par rapport aux arguments d'Emmanuel, je vais répondre juste sur cet argument premier. D'abord, moi, quand je pars en vacances, je prends le train. Oui, et donc, récemment, prenant le train, puisque c'est les gens qui travaillent, récemment, le train, revenant d'une ville bénie, à laquelle je tiens beaucoup,
de Bordeaux,
le TGV longe l'autoroute à hauteur du péage de Saint-Arnoult.
Il y avait un peu de monde.
C'était le lundi de Pâques et ça m'a rassuré puisque tous ces gens utilisent leur voiture, comme vient de le dire Emmanuel, de façon contrainte parce qu'ils sont obligés de l'utiliser pour aller travailler. Et donc, malgré tout ce qu'on nous a raconté, les Français travaillaient le lundi de Pâques puisqu'ils étaient en embouteillage au péage de Saint-Arnoult.
Quelle mauvaise foi, Jean-Marc.
Oui, non, mais tout ça n'est pas sérieux. Écoutez, franchement, les trois remarques habituelles. Vous l'avez dit, effectivement, s'il y a la gentille infirmière qu'il faut aider, en réalité, on aide le méchant propriétaire de SUV avec ça. C'est ce que vient de constater la Commission européenne. Donc, effectivement, il faut maintenir un prix qui est un prix qui répercute la réalité économique et puis traiter au cas par cas les gens qui ont des difficultés qui correspondent véritablement à leurs besoins en termes d'activité. L'infirmière, eh bien, si elle a un problème de coût, elle répercute dans ses prix, et ses prix, c'est la sécurité sociale qui les assure. Donc, si l'État veut intervenir, il réfléchit à la façon dont on rémunère les infirmières. La deuxième remarque que je ferai, c'est que, effectivement, Emmanuel l'a dit, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut avoir une visibilité dans laquelle on n'annonce pas aux gens, de toute façon, le prix de l'essence, à partir de 2 euros, 2,20 euros, 30 est trop élevé. Non, il n'est pas assez élevé. Et donc, je pense que effectivement, il faut considérer que quelle que soit l'origine de la hausse du prix, c'est pas forcément une origine qui soit favorable à l'ensemble du pays, puisque cette hausse des prix, elle favorise les pays producteurs, elle favorise les compagnies pétrolières, elle favorise pas le fisc. Mais quelle que soit l'origine de cette hausse de prix, elle est nécessaire, et donc s'engager dans un processus qui fait adapter à la population des prix de plus élevés est une bonne chose. Puis le dernier élément que je mettrai en avant, c'est le fait que effectivement il y a on est le seul pays à ne pas, donc on est montré du doigt. Mais enfin, quand on est le seul pays à avoir un déficit structurel supérieur à 5%, c'est peut-être là qu'il faut être montré du doigt. C'est peut-être à ce moment-là.
Les deux sont un peu ensemble, hein, quand même.
Il vaut mieux être montré du doigt pour les erreurs.
Voilà.
Il faut être montré du doigt du côté de notre forme de rigueur en la matière. Juste dernière réflexion. Mihi cura futori. C'est une phrase dans Ovid, quand Ulysse apparaît, Ulysse qui symbolise l'intelligence, à chaque fois qu'il apparaît, il commence en disant ça, qui veut dire, moi, ma grande préoccupation, c'est le futur. La préoccupation de l'économiste, normalement, c'est la génération d'après et pas l'électricité.
Donc, c'est le plan d'électrification, c'est ça le...
Donc, c'est le plan d'électrification, la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique, et pas l'élection de l'année prochaine.
Oui, sauf qu'encore une fois, l'un ne va pas sans l'autre, et que la trajectoire vers la décarbonation ne nous permettra d'arriver à destination de cette décarbonation que si nous ne sommes pas confrontés à des accidents majeurs en cours de route. Et là, nous sommes confrontés à un accident majeur qu'il faut temporairement traiter.
Il faut des véhicules pas chers.